Amen.
Quelle joie de vous retrouver pour notre temps de culte ce matin. Et je continue d'être épaté par le Seigneur. Parce que si on n'avait pas pu faire la prédication ce matin, en vrai, vous avez déjà tout entendu pendant le temps de louange. Et Dieu est bon. Et Dieu me surprend moi-même et me rassure aussi. Parce que quand on prépare un message, on sait toujours cette question qui revient, est-ce que c'est vraiment le message que Dieu veut donner à l'Église ce matin? Et après ce temps de louange, je suis vraiment rassuré. Je sais que Dieu est là et que Dieu nous guide par son esprit les uns et les autres. Amen. Alors je vous propose de commencer le message par une lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17. C'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissons, mais que nous allons revoir ce matin d'une autre manière. Alors, on commence à partir du verset 1. Voici le contexte. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soco et Azekah à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Ela et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gat et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze. Il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en ordre de bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. « Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Tout est dit dans ces quelques versets. Il y a la guerre entre les Philistins et Israël. Et toute l'armée d'Israël se retrouve paralysée par la peur à cause d'un seul homme, Goliath. C'est vrai que ce n'est pas n'importe quel homme. Un géant d'environ 3 mètres de haut, dont l'armure, faite d'écailles, lui donne l'apparence d'un serpent de métal. Même le roi Saül, qui dépassait en taille tout le peuple d'Israël, n'ose pas se mesurer à Goliath. Personne dans toute l'armée n'ose venir affronter cet ennemi qui semble imbattable aux yeux de tous. Peut-être que ce matin, comme Israël, certains d'entre nous passons par une situation face à laquelle nous sommes dans la peur, dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Et peut-être que, comme Israël, nous trouvons cette situation insurmontable, imbattable. C'est un peu comme si nous étions face à une armée ennemie et que le Goliath de nos vies venait chaque jour nous accabler un peu plus. Goliath, avec ses écailles de métal, c'est un peu comme ce serpent du jardin d'Éden, celui qui est venu tenter Ève et Adam. C'est l'image de la désobéissance à Dieu, c'est l'image du péché. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. Amen. C'est que nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, qui est bien plus fort que toutes les armées ennemies, qui est bien plus fort que tous les Goliaths que nous pouvons croiser. Il est plus fort que le péché qui nous accable. Dieu a un plan Amen. Et c'est ce plan de Dieu que nous allons voir ce matin. Alors lisons la suite de l'histoire, parce que là on n'est encore qu'au début en fait. On arrive au verset 17. Ça semble être un morceau d'histoire dans l'histoire. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ses 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Ela et ils font la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Non, pas de cris de guerre. C'est pas grave. C'est pas ça le plus important. En fait, ce que l'on peut voir dans ce passage, c'est que David a été envoyé par son père pour venir sur le champ de bataille. C'est la première étape du plan. Et même si David, dans cette histoire, n'a pas vraiment conscience de ce qu'il attend, en fait, nous connaissons un fils qui a été envoyé par un père pour venir sur le champ de bataille de nos vies. Il s'agit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu envoyé par le Père, notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Jésus a été envoyé par Dieu sur la terre pour accomplir son plan. Et son Esprit nous a été envoyé. Et son Esprit vit encore en nous aujourd'hui pour combattre à nos côtés, au milieu de notre propre champ de bataille. Nous ne sommes pas seuls face à Goliath. Nous ne sommes pas seuls face à l'armée des Philistins. Nous ne sommes pas seuls face au péché. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu nous accompagne et il est là pour nous délivrer. Amen. C'était la première étape. Lisons la suite pour découvrir la suite du plan. On arrive au verset 21. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » Quelle récompense ! David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Et on lit un peu plus loin, « Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui le fit venir. » Ce que l'on voit, c'est que David ne reste pas silencieux. Il prend position face à Goliath. Ce n'est pas tellement la récompense qui l'intéresse, mais il manifeste son désaccord avec cette situation qui a pris place et qui donne déjà, en quelque sorte, la victoire à l'armée ennemie. Et Jésus agit de la même manière. Jésus non plus n'est pas resté silencieux. Nous avons 4 évangiles dans nos Bibles qui nous rapportent ces paroles. Ses disciples ont partagé les paroles de Jésus par-delà les frontières d'Israël, par-delà les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Nous savons comment Jésus s'est opposé au péché. C'était le combat qu'il est venu mener, ce combat contre le péché. Et ce matin, de la même manière, nous sommes amenés, chacun d'entre nous, à prendre position contre le péché qui a pris place dans nos vies. Il ne s'agit pas du péché d'un autre, du péché d'une société. Il est question de notre péché à nous, notre péché personnel, notre désobéissance à nous devant Dieu. Le Saint-Esprit qui vit en nous aujourd'hui se manifeste à notre conscience pour nous montrer là où se trouve la désobéissance dans nos vies, là où se trouve le péché. Ce péché qui est devenu finalement comme une armée, qui est devenu comme un géant, et c'est ce qui a fini par nous paralyser. C'est ce qui a fini par nous placer dans cet état de peur, d'angoisse, d'inquiétude. Il peut prendre tellement de formes différentes. La désobéissance, c'est tellement vaste. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Esprit pour nous montrer exactement ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes appelés à prendre position, comme Jésus, comme David face à Goliath. Il est possible que cette prise de position ne plaise pas à tout le monde. Peut-être que dans notre entourage, lorsque nous prendrons position, il y aura des personnes que cette prise de position va gêner. Et David, eh bien, lui aussi est passé par là. Au verset 28, voici ce que l'on peut lire. Éliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes. Et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici ? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et plus loin, on peut lire aussi, cette fois-ci dans la bouche de Saül, au verset 33, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. » Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ces oppositions, comme on vient de le lire, eh bien, elles viennent pas des gens dont on n'a rien à faire. Elles viennent la plupart du temps des personnes qui nous sont les plus proches. David, c'est le plus jeune des fils de son père. Et là, c'est l'aîné des fils, celui qui est la référence dans la famille, qui vient s'opposer à lui en l'accusant. Et ses paroles, elles sont blessantes. Il dit à David qu'il a un cœur orgueilleux et méchant. C'est des mots forts et ça fait mal. D'autant plus que ça vient de la personne dont il aurait pu s'attendre à avoir le plus de soutien. Et parfois, ça vient aussi, ces oppositions, des autorités en qui nous avons confiance. Mais Saül, qui a cette image de l'autorité, bien n'est pas plus tendre avec David. Il se place lui aussi en opposition, en disant qu'il n'est qu'un enfant. Quand il s'agit de Jésus, est-ce que Jésus a eu des oppositions ? Eh oui, Jésus en a rencontré pas mal. Il a rencontré des oppositions dans la famille humaine dans laquelle il est né. Jésus a rencontré des oppositions dans la ville qu'il a vu grandir. Jésus a rencontré des oppositions parmi tout son peuple. Il a rencontré des oppositions de la part des autorités religieuses qui prêchaient sa venue. Il a rencontré de l'opposition de la part des autorités romaines. Il a rencontré des oppositions de la part de tout le monde, si on peut résumer les choses. Il a été trahi par l'un de ses disciples. Il a été livré par son propre peuple à l'occupant romain. Il a été abandonné par tout le monde. Il s'est retrouvé crucifié entre deux brigands, pris lui-même pour un malfaiteur. Jésus, on peut le dire, sait vraiment ce que c'est que de vivre l'opposition. Alors que lui-même avait pris position contre le péché. Alors, quand on passe par ces temps d'opposition, nous pouvons vraiment confier à Jésus ce que nous vivons, ce que nous ressentons. C'est lui le mieux placé pour nous comprendre. C'est lui le mieux placé pour nous apporter sa paix. Même lorsque ce sont nos plus proches, ceux dont nous attendions le soutien qui s'oppose à nous face à notre prise de position contre le péché. Jésus a même dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu nous donne vraiment d'avoir cette attitude-là, nous aussi. Savez-vous que le Saint-Esprit, en nous, rencontre aussi l'opposition ? L'opposition de qui ? Je l'entends souffler, exactement. Nous sommes bien souvent nous-mêmes l'adversaire du Saint-Esprit en nous. Nous nous opposons à lui. Combien de fois avons-nous argumenté avec le Saint-Esprit pour ne pas faire ce qu'il nous demandait ? Je n'ose plus compter. Mais c'est vrai, hein ? Des fois, on sait vraiment ce que Dieu nous appelle à faire, mais on argumente parce que on est tiraillé. Pourtant, le Saint-Esprit veut nous aider à écraser Goliath. Alors, arrêtons de trouver tout un tas d'excuses pour éviter le combat. Bien souvent, si on agit de cette manière, c'est parce que, en fait, nous portons un regard très humain sur nous-mêmes. Nous avons l'impression de ne pas être équipés pour le combat. Mais souvent, c'est parce que nous n'avons pas bien saisi de quel équipement nous avons besoin. Dans le cas de David, le combat auquel tout le monde s'attend est un combat au corps à corps. Et c'est vrai que quand on imagine un enfant face à un géant de 3 mètres, on se dit qu'il y a un petit déséquilibre quand même. Alors le roi Saül va équiper David de la manière qui lui semble la meilleure pour combattre au corps à corps face à Goliath. C'est ce qu'on lit au verset 38. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. David a essayé l'équipement humain, mais il se rend compte qu'avec cet équipement humain, il ne peut pas combattre. Il ne peut même pas marcher. Il avait besoin d'un équipement divin. Amen. Voici ce que David dit aux Philistins au verset 45. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » De la même manière, Jésus aurait pu rechercher à avoir un équipement humain face au péché. C'est en quelque sorte ce que lui proposait le diable dans le désert. Les quatre évangiles en parlent, mais on peut prendre la version dans Matthieu, Matthieu chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable n'en reste pas là. Il continue. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Mais le diable récidive encore. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Amen. À chaque fois, Jésus a refusé. Mais ses propres disciples ont voulu invoquer le feu du ciel pour punir des personnes qui ne s'étaient pas montrées accueillantes. Ses propres disciples voulaient utiliser finalement des armes, alors de Dieu, mais d'une façon très humaine. Mais Jésus, là aussi, a refusé pour vaincre le péché. Jésus n'a pas voulu utiliser la force et la puissance à laquelle il avait accès. Jésus a préféré les moyens prévus par Dieu pour ce combat. L'apôtre Paul le résume ainsi, dans Colossiens au chapitre 1, verset 20. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, à travers Christ, par son sang versé sur la croix. Amen. Le plan de Dieu pour combattre le péché, c'est le sang de Jésus versé sur la croix. Et quand on regarde à nos propres vies, c'est vrai que bien souvent, on a tendance à vouloir utiliser des moyens humains face à notre péché. On peut essayer pendant des années, mais si c'est humainement que l'on combat, on ne peut pas gagner. Je pense que nous l'avons tous vécu un jour ou l'autre. Plus on se trouve en situation d'échec dans ce combat contre le péché, plus on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. On se sent sans force, usé par le combat. Vaincre le péché qui a pris place dans nos vies, ça semble impossible quand on combat avec des armes humaines. Mais comme le dit Jésus dans Matthieu au chapitre 19 et au verset 26, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à revêtir un équipement spirituel. Est-ce que ça vous parle, l'équipement spirituel ? J'entends des oui timides. Allez, vous connaissez ces versets par cœur, mais j'en suis sûr en plus. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Ça, c'est un équipement spirituel. Et on le voit face au péché et aux œuvres de l'ennemi, Dieu nous a équipés de façon très complète. À nous maintenant, eh bien, quand on est confronté à ces situations, quand on est confronté au péché, de choisir l'équipement de Dieu plutôt que l'équipement humain. Je termine sur un dernier point. Parce qu'il manque encore quelque chose quand même. On a vu qu'il y avait la venue du Fils. On a vu qu'il y avait besoin d'avoir une prise de position. On a même vu que parfois on peut avoir des oppositions face à cette prise de position. On a vu qu'il fallait être équipé d'armes spirituelles pour le combat. Alors c'est quoi la suite ? C'est trop timide. Mais la victoire ! Mais oui ! Il manque la victoire. David déclare ceci face à Goliath et à l'armée des Philistins. La victoire n'est pas encore intervenue, mais il la proclame déjà. On est au verset 46. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée, y compris à Colomiers, saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il livre l'armée des Philistins. Il a livré le péché entre nos mains. C'est vraiment ce qui se passe dans la suite de l'histoire ou pas ? Oui, bien sûr. On le lit, comment ça se passe en vrai pour David. On est au verset 48. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui. Il n'est pas trop pressé, le Philistin. David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, y prit une pierre et lança avec sa fronde. Et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Personne n'imaginait ça. Mais le Philistin tomba à terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Amen. David est passé à l'action. Il a mis en pratique ce qu'il a déclaré et Dieu a agi. Et la victoire a pris place dans la vie de David, elle a pris place dans la vie de toute l'armée d'Israël. Ils étaient mis en échec par le géant Goliath, mais Dieu les a délivrés. Jésus, lui aussi, a mené des combats féroces. Hein. Il y en avait. Pas avec une épée, même pas avec une fronde. Mais ils étaient féroces, c'était un combat céleste. Et l'un des plus féroces combats qu'il a mené s'est produit avant même qu'il soit arrêté. La victoire a commencé lorsqu'il se trouvait dans le jardin de Gethsémané. Il savait tout ce qui l'attendait. Jésus savait d'avance ce qu'il était venu faire. Et il était en lutte, comme nous le sommes tous. Mais il s'est adressé ainsi à Dieu dans sa prière. Et Luc en a parlé ce matin, exactement ce même passage. On est dans Matthieu, chapitre 26, verset 39. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et la victoire, eh bien, elle s'est manifestée ensuite par sa mort sur la croix, où le péché a été terrassé. Parce que Jésus a été obéissant jusqu'au bout. Il a fait la volonté de Dieu jusqu'au bout. Et qu'en est-il de nous ? Ah, on en revient à nous. Si nous combattons avec notre chair, nous avons vu que c'est perdu d'avance. Mais en combattant avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, alors ça change tout. Voici ce que l'apôtre Paul partage aux Galates. On est dans Galates chapitre 5, verset 16. « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Amen. Aujourd'hui, Jésus n'est pas seulement mort sur la croix. Il est ressuscité pour que nous ayons la vie avec lui. Et le même esprit qui a ressuscité Christ vit en nous. Alors, ce matin, invitons le Saint-Esprit à prendre toute la place. Invitons le Saint-Esprit à nous aider à remporter la victoire au nom de Jésus. Amen. On peut lever nos voix tous ensemble ? Pour inviter le Saint-Esprit. Oui, Seigneur Jésus, merci pour cette grâce, merci pour la croix. Seigneur éternel, oui, fais descendre ton Saint-Esprit sur nous. Viens nous remplir encore ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de l'action de ton Esprit, Seigneur éternel. Oui, merci Seigneur, parce que ton Fils est venu, parce que Jésus est venu sur notre champ de bataille. Merci Seigneur, parce que oui, tu nous aides à prendre position contre le péché. Tu nous aides, Seigneur, à vraiment être établis, Seigneur, comme opposants du péché, Seigneur. Quelles que soient les oppositions, donne-nous cette paix qui vient de toi. Donne-nous cette paix, Seigneur, quelles que soient les oppositions. Que tu puisses venir toucher aussi ceux qui s'opposent. Seigneur, que tu puisses venir transformer leur cœur, Seigneur, afin qu'à leur tour aussi, ils puissent, Seigneur, se positionner face au péché. Seigneur, oui, nous nous plaçons devant toi en étant équipés des armes spirituelles, Seigneur. Oui, que ton esprit nous équipe afin que nous puissions non pas combattre avec notre chair, non pas combattre avec des armes humaines, mais combattre avec ces armes qui viennent de toi, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, nous voulons proclamer ta victoire sur notre péché. Nous voulons proclamer ta victoire sur nos désobéissances. Aide-nous, Seigneur, oui, à faire ta volonté, à rechercher à faire ta volonté toujours plus chaque jour. Seigneur, que nous ne nous laissions pas abattre dans ce combat. Seigneur, car toi, tu as déjà vaincu. Nous proclamons ta victoire et nous savons que nous la verrons et que nous la voyons déjà rayonner dans nos vies, Seigneur éternel. Oui, merci mon Dieu pour ta grâce. Sois élevé, ô notre roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Amen.